Dîme ou pas dîme, c'est un sujet de controverse, un sujet de discussion, un sujet qui divise et des fois un sujet qui rapproche. Un proverbe africain, alors là je vais peut-être me faire lapider un peu par les vrais africains, un proverbe africain dit qu'on a deux mains. Jusque là, on est à peu près tous d'accord. D'accord ? Il y a une main qui demande, et il y a une main qui donne. Mais quelqu'un a remarqué que la main qui demande est toujours plus basse que celle qui donne. Non ? La main qui demande est toujours beaucoup plus basse que celle qui donne. Et le Seigneur, ce matin, ce qu'il veut faire par le message que j'ai préparé, c'est nous élever vers lui. Nous recevons. Nous sommes les récepteurs, mes amis, de grâce après grâce. Non ? Nous sommes récepteurs de la vie. Nous sommes récepteurs du pardon. Et Dieu attend de nous que nous sachions aussi nous donner. C'est la plus grande chose que Dieu attend de nous. Que nous sachions nous donner. C'est Paul qui le dit aux Romains. Mais après, quoi donner? Quoi donner à Dieu? Comment donner à Dieu? Alors ce matin, je ne vais pas vraiment traiter, parce que déjà, vous allez voir, il y a une petite amplitude dans ce que j'ai préparé. La prochaine fois, j'essaierai de nous montrer comment, ou de nous rappeler, parce que vous savez. La première offrande, vous savez quand est-ce qu'elle remonte? La première offrande, la première collecte. Alors, je ne vais pas faire de sondage. Mais ça remonte au chapitre 4 de la Genèse. Chapitre 4 de la Genèse. Verset 2. Nous dit que les deux fils d'Adam, Abel et Caïn, édifièrent chacun un autel sur lequel ils présentèrent à Dieu leurs dons. Mes amis, on est hors cadre. La loi n'existe pas. La loi n'a pas été édictée, rien. On est dans le domaine du cœur. Abel était berger, Caïn était laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn Abel, de son côté, fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et la suite nous dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais la Bible nous dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur celle de Caïn. Mes amis, je ne vais pas me lancer dans une exégèse du texte et essayer de nous expliquer le texte. Mais en tout cas, une offrande a été regardée, l'autre a été moins regardée. Chacun de ces deux frères a eu la même intention. Cependant, seule l'offrande d'Abel fut agréée, où Dieu a porté un regard favorable. Ceci nous révèle qu'il ne suffit pas de donner, d'apporter, mais de le faire de manière conforme. De le faire de manière conforme, selon sa volonté. Alors, la question, c'est que dit la Bible? Que dit la Bible? À travers la Bible apparaissent trois étapes bien distinctes. Chacune contient une instruction, et j'ai marqué une, j'aurais pu mettre des instructions, pour nous apprendre à donner notre offrande à Dieu. Je précise, je mets le cadre que là, on parle d'offrande sonnante et trébuchante. On parle pas de se donner. Hein, se donner à Christ, c'est la première des choses la plus importante. Accepter Jésus-Christ, laisser nos péchés derrière nous, accepter son pardon, ça c'est la plus grande des offrandes. Donc je mets le cadre où je m'adresse à ceux qui se sont donnés à Christ, qui devraient être en principe le cadre dans une église. Nous verrons avant l'institution de la loi de Moïse. On a déjà vu une. Nous verrons, voilà, j'ai pas bien réglé mon affaire, selon la loi de Moïse, petit rappel, et sous la grâce. Et vous voyez que le domaine de la grâce ou le domaine de l'exploration, il était avant et après. Abraham était un croyant. Il avait foi en l'existence d'un Dieu unique. Il reçut de Dieu l'appel de se rendre en Israël. Dieu lui fit la promesse que cette terre appartiendrait à ses descendants, qui formeraient un peuple et apporteraient une grande bénédiction au monde. Avant la loi. Avant la loi. Abraham, c'était avant la loi. Et regardez ce qui arrive. Dans Genèse 14, au verset 20, alors qu'il est dans cette terre promise, après avoir quitté son pays de Mésopotamie, il rencontre dans la vallée dite du roi, Melchisédek, un homme de Dieu, roi, sacrificateur du Très-Haut. Et au cours de cette rencontre, il vient d'avoir une grande victoire face à des rois. Melchisédek bénit Abraham. Et le texte dit là, et Abraham lui donna là, dîme de tout. Il n'avait pas de texte, il n'avait pas la législation, Dieu ne lui avait pas fixé, voilà, tu dois me donner 10%. C'est ça la dîme, hein. La dîme c'est 10%. Ce qui est extraordinaire, Abraham a décidé, et c'est même pas, si on analyse le texte, mais je ne veux pas aller trop loin, parce que ce matin j'ai pas beaucoup de temps, si j'ai du temps, mais je ne vais pas entrer trop dans le texte, Abraham ne donne pas les choses qui lui appartiennent. Dans le texte, en plus. On pourra voir ça en étude. Mais, quelque chose qui est intéressant, on a donc Abel et Caïn, avant la loi, avec, on connaît la suite d'Abel et Caïn, hein, ceux qui ont lu le texte, parce qu'il y en a un qui a été content et l'autre pas content, ça s'est terminé dans un bain de sang. Il ne faudrait pas que ça arrive ici à Vigneux, hein. Abraham donne la dîme de tout. Et ce qui est intéressant, c'est que mes amis, quand nous sommes des chrétiens fidèles, des chrétiens motivés, des chrétiens qui ne sont pas arrogants, des chrétiens qui, quelque part, montrent quel est le critère chrétien dans la vie d'un, homme, comment Dieu peut changer la vie d'un homme ou d'une femme, ça a beaucoup d'effet sur ceux qui nous entourent. L'offrande de la dîme continue à se pratiquer dans la famille d'Abraham, de père en fils. Son petit-fils, Jacob, fit plus tard une promesse. Dans Genèse 28, 14 chapitres plus loin, Jacob dit, « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Alors là, j'ai lu un commentaire extraordinaire cette semaine de quelqu'un qui était contre la dîme, qui était... qui disait que les chrétiens qui pensent que voilà, il faut suivre le principe, il dit, oui, mais quand même. Jacob, il a fait un deal avec Dieu, il a dit, si tu me donnes, alors je te donnerai. Et tout ça, c'était 20 ans plus tard. Donc il disait, vous, chrétiens, vous avez 20 ans avant de donner l'argent. Et je trouvais que la personne qui avait fait le commentaire avait pris une certaine légèreté et facilité avec le texte. Dieu nous donne à profusion. Dieu nous accorde la vie, Dieu nous accorde la grâce, Dieu nous accorde le pardon, Dieu nous accorde l'air que nous respirons, Dieu nous accorde le vêtement, Dieu nous accorde la nourriture, Dieu nous accorde d'être bénis et on l'est ensemble. Et là, ce que je trouve intéressant, dans la lignée d'Abraham, son petit-fils, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Tout ce que tu me donneras, c'est pas un gros salaire. Le tout là englobe tout. C'est intéressant. On a souvent, je reviendrai dans la troisième partie, on a souvent cette expression, ah, quand je serai riche, je donnerai. Ah, si je pouvais être riche, alors moi je serais. Est-ce que Dieu, avec ce que j'ai, peut me permettre de donner? Décision volontaire. la décision de Jacob était purement volontaire, basée sur aucun texte. C'était un engagement pour témoigner à Dieu sa reconnaissance, sa foi. Il ne s'agissait pas d'une loi, d'une coutume, mais d'un principe estimé normal et équitable. Normal, équitable. Décision volontaire. En parlant de décision volontaire, j'ai été interpellé par ce texte de David, le roi David, qui veut construire un temple. Et lorsque le peuple d'Israël apporte ses offrandes volontaires pour la construction du temple de Jérusalem. Voilà ce que David dit dans le premier livre des Chroniques, chapitre 29 et verset 14. C'est David qui parle, il dit « Qui suis-je donc ? Et qui est mon peuple ? Pour que nous soyons capables de te faire pareille offrande volontaire. Tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. C'est de ta main, nous te rendons ce que tu nous donnes. » C'est intéressant de réfléchir juste sur ces textes et de se dire, mais on n'est pas enfermé dans quelque chose. C'est une offrande volontaire par rapport à ce que Dieu me donne. Quand quelqu'un nous donne de l'amour, sommes-nous tentés à lui rendre de la méchanceté? Quand Dieu nous donne à manger, quand Dieu nous donne son pardon, sa miséricorde, son soutien, sommes-nous à même de lui donner quelque chose de mauvais? David a exprimé ce texte d'offrande volontaire par rapport à son peuple. Donc nous étions, et je balaye, avant la loi. Deuxième partie, alors selon la loi. Parmi les différentes lois que Moïse a données au peuple de la part de Dieu, lorsqu'il le conduisait au travers du Sinaï, on note ceci à propos de l'offrande. Chapitre 29 de l'Exode, donc on a vu Genèse, Exode. Parmi « Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices, le début, les premiers fruits de la terre, la meilleure partie. » Vous savez, quand on reçoit notre salaire, quand le salaire arrive à la banque, on a coutume de dire « Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai à payer ?» Voilà les frais. Voilà ce que j'ai envie de faire. Voilà aussi, je vais prévoir pour la machine. La machine, elle a 10 ans, elle va pas tarder à lâcher. Et puis, ma femme va peut-être se faire rentrer dedans, donc faut peut-être que je mette des sous de côté. Ou peut-être moi, je vais rentrer dans quelqu'un. J'espère que non, j'espère que c'est pas prémonitoire. Et puis voilà ce qui reste. Le texte là, il nous parle au début. Dieu, premier servi. Voilà, Seigneur, je reçois cette somme. Voilà ce que je mets à part. Ainsi, Dieu était le premier servi, le mieux servi, puisqu'il recevait les premiers fruits de la plus belle part de ses fruits. Moi, j'achète des fruits frais. Ce qui est intéressant, c'est que attendez une petite dizaine de jours. Et un matin, vous levez, vous dites, ah, l'autre jour, j'ai acheté des bananes. Mon Dieu, elles étaient fraîches, elles étaient belles. Je vais aller en manger une. 15 jours plus tard. Elle a un petit peu noirci, la banane. Hein, ou le fruit. Et vous dites, là, c'est bon. Il y a toujours la qualité du fruit, hein. Mais c'est plus la même. Et là, tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices de tes premiers fruits. Tu apporteras ce qu'il y a de meilleur. Pas ce qui a moisi, ce qui reste au fond de la poche. Les prémices. Premier servi, le mieux servi. À l'époque de Moïse, la dîme était considérée comme un dû. Puisque c'était le droit pour Dieu. C'était sa part. toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Le chapitre Lévitique, hein, on continue d'avancer, Genèse, Exode, Lévitique, 27-30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est à lui. 10%. C'est un droit. Là, on n'est plus dans le cadre décidé. Mais, soumettez-vous. Obéissez. C'est moi qui donne, c'est moi qui fixe. Le peuple devait payer une dîme générale au bénéfice de ceux qui servaient parmi eux. Les Lévites. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Continuez d'avancer, on est dans le livre des Nombres, chapitre 18, verset 21. Le peuple devait mettre à part une somme pour ceux qui les servaient. Toutes les tribus d'Israël, à l'exception des Lévites, reçurent une possession géographique comme héritage. Mais les Lévites, eux, devaient accomplir une tâche au sein de ce peuple. Ils devaient s'occuper, c'était la fonction publique de l'époque, si je peux parler comme ça, et de être salariés pour cela. En compensation de ce service, ils devaient percevoir un impôt sur le revenu. Vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui. 10% de tous les revenus de tous les Israélites. Donc, vous voyez que là, on parle plus d'une somme restreinte. Mais plus le peuple est grand, plus les 10% sont proportionnels. D'accord? Vous me suivez? Donc, quand je vais acheter une Ferrari, vous voyez, les Lévites devaient payer, ces nombres 18, eux, la dîme de la dîme, au bénéfice de ceux qui servaient au-dessus d'eux, les sacrificateurs. Ce qui est intéressant, mes amis, c'est que, au travers de ces textes, on découvre quelque chose. Dieu a créé la terre, d'accord? Il a mis des hommes sur la terre, il a mis un peuple sur la terre, et quelque part, il a organisé leur fonctionnement. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a le peuple, ceux qui servent au milieu, puis ceux qui servent les sacrificateurs, et puis il y a au-dessus, et Dieu permet que chacun prenne sa responsabilité pour que le monde fonctionne. Pour que ça ne soit pas l'anarchie. Et on retrouve exactement ces choses dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Il n'y a pas de différence. Dieu ne fixe pas les chiffres de la même façon, mais il est marqué dans le livre des Actes que chacun vérifiait chaque jour si personne ne manquait de rien. Et on a les mêmes textes. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras lorsque vous recevrez. Donc ceux qui n'arrivent pas à lire ici, c'est Lévites, nombre 18, verset 25 et suivant. Hein. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession. Vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève à l'air, comme le moût qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel sur tous les dons qui vous seront faits. Vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel sur tout ce qu'il y aura de meilleur. Vous avez vu? Les Lévites ne pouvaient pas rester avec la somme qu'ils avaient, ils devaient aussi permettre à quelqu'un d'autre de vivre. Avec le meilleur. La loi nous paraît tellement désuète, tellement terne, tellement difficile. Et on s'aperçoit que ça permet à tout le peuple de vivre. En respectant chacun les uns et les autres. Tous les Israélites devaient conserver une dîme de toute leur production. Et là, on va toucher un domaine que peut-être vous n'avez encore jamais vraiment très bien compris. En prévision de leur pèlerinage annuel à Jérusalem ou à Clermont-Ferrand, ville magnifique, où il faut aller une fois dans sa vie. Regardez ce que dit Deutéronome 14, versets 22 à 26. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira la semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Tu en mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton moût, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras la dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu de l'Éternel, ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Waouh ! Dieu a prévu les vacances avant 1948, la cinquième semaine, ça existe. Dans la vie. La joie. Dieu permet à son peuple d'envisager les vacances. Vous imaginez ça? Vous avez déjà vu? Nous, on voit un Dieu, voilà, il faut 10%. Ah, c'est terrible, c'est pourquoi faire? Voilà. Dieu dit, voilà les choses comment on s'organise. Et aussi, pour se réjouir. Pour avoir du plaisir. Et regardez bien, pas toi tout seul, l'égoïste. Toi et ta famille. Ça change la notion de la dîme, non? Ça change la notion. On a toujours l'impression qu'on a un père fouettard qui nous demande des choses terribles. Et Dieu, il prévoit l'imprévu. Et Dieu, il prévoit les vacances. Et Dieu, il prévoit les moments de joie. Les moments où on peut se détendre. Mais il faut prévoir. Faire la fête. Tout le peuple devait s'assembler trois fois par an à Jérusalem, l'endroit choisi par le Seigneur à l'occasion des fêtes principales. Ces fêtes devaient être l'occasion de réjouissance. Et Dieu avait prévu que tous puissent disposer de ressources suffisantes pour leur permettre de se réjouir. Et leur dit, mettez de côté 10%. Une autre dîme, dans Deutéronome 14, 28, 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasiront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprendras dans tes mains. Le peuple, les fonctionnaires, les autorités, les loisirs, le pauvre, l'étranger, Dieu, mes amis, n'est-il pas un Dieu extraordinaire? Un Dieu qui ne se concentre pas sur une branche, sur une personne, mais qui veut que les bénédictions touchent un maximum. L'étranger, l'orphelin, la veuve. N'est-ce pas un Dieu de grâce? Un Dieu qui, peut-être, mérite d'être un peu mieux considéré que nous considérons les choses? Ou nous sommes arrêtés à nos 10% pour... Mais Dieu nous apprend, nous donne un plan comptable pour nos familles, pour gérer nos comptes, pour gérer nos finances. Dans un monde qui nous promet de rien payer au comptant tout en 30 ans. Et si vous trouvez plus cher ailleurs, venez vite nous rembourser la différence. C'est pas moins cher. Petit compte. Toutes ces dîmes n'étaient pas des offrandes volontaires. Il s'agissait de véritables taxes. Le total, quelqu'un s'est aventuré, j'ai pas fait le compte, hein, mais j'ai pris pour vrai, si on fait le total, c'est plus de 23% de leur salaire qui part, qui est mis de côté. Le sacrificateur, fils de Raon, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Alors, qui? Les Lévites, les serviteurs amèneront la dîme de la dîme dans la maison du trésor. Et vous savez, dans Malachie chapitre 3, verset 10, apportez à la maison les trésors. Le texte fait référence à ce texte-là aussi. Où il demande aux serviteurs, apportez, vous allez voir, si moi je ne gère pas. Dieu demande, Dieu gère. Alors on se dit, oui, mais voilà, c'est la loi. Et Romains 6, 14, rondement, nous dit que nous ne sommes plus sous la loi. Alors, on se pose la question et on va dans l'Épître aux Galates. Donc là, on a sauté dans le Nouveau Testament et on se demande à quoi sert donc la loi? S'il y a eu la dîme avant la loi, la dîme selon la loi avec des principes intéressants qui amènent à réfléchir. Pourquoi? Galates chapitre 3, verset 24. Le but de la loi était d'agir comme un tuteur, un précepteur, un pédagogue, quelqu'un qui nous conduit jusqu'à Christ pour que nous soyons justifiés par la foi et pas par la loi. Donner, offrir ne nous justifie pas, ne nous rachète pas, ne fait pas de nous des meilleures personnes. C'est juste l'expression de ce que Dieu a fait dans notre cœur. Alors, troisième partie, l'offrande, la dîme selon le Nouveau Testament. Tout comme le peuple d'Israël, je regarde la montre, mais je crois qu'elle s'est arrêtée, voilà. Tout comme le peuple d'Israël, avant la venue de Jésus-Christ, apportait à Dieu sa dîme et ses offrandes, le chrétien, lui, est invité à consacrer à Dieu une part qui lui revient. Tout n'a pas été balayé. Mettre à part, consacré. J'avais fait un message un jour sur la consécration. Vous savez ce que c'est que consacrer? Consacrer, c'est mettre quelque chose à part et l'utiliser que pour ça. Et j'avais utilisé en expliquant qu'un jour, j'avais sanctifié, consacré un tupperware de ma femme pour la vidange de ma voiture. Et heureusement, dans l'église, il y avait une dame qui vendait des tupperwares, donc elle s'est empressée d'aller voir ma femme à la fin et de lui dire « Je crois qu'il faut que tu te remplaces les tupperwares si ton mari les consacre pour ses vidanges. » Consacrer, c'est que chacun de vous mette le premier jour de la semaine à part ce qu'il pourra selon sa prospérité. Selon ce que Dieu lui donne. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2. On cite souvent ce texte, hein, au moment de l'offrande. Que chacun consacre, mette à part les prémices, le début, pas quand il ne reste plus rien. Regardez ce que Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, au deuxième livre des Corinthiens, chapitre 8. La dîme comme une grâce. L'offrande comme une grâce. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Bien qu'ils aient été très éprouvés dans leur détresse, leur joie débordante, leur profonde, lisez bien le texte, leur profonde pauvreté ont fait abonder la richesse de leur générosité. Selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de prendre part à ce ministère de solidarité envers les saints. On est au milieu d'une collecte pour les saints de Jérusalem. Et là, les frères de Macédoine sont connus pour être des gens pauvres, qui n'ont pas grand-chose à donner. Et ce qui est intéressant, Paul dit, ils nous ont réclamé la grâce de participer. Leur détresse a même fait déborder ce qu'ils étaient capables. Oh, mes amis. La grâce a fait en sorte qu'ils ont donné énormément dans leur profonde pauvreté. Quel texte?
La bonne volonté. Vous savez, le fameux « je donnerai quand j'aurai de l'argent ». La bonne pauvreté est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. La bonne volonté est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Je te donnerai bien, mais ça c'est la bonne volonté qui sert à rien. La bonne volonté est agréable en raison de ce qu'elle a. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur sans tristesse. Oh Seigneur, je te donne, mais qu'est-ce que ça pourrait me servir? Ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Caïn et Abel ont donné avec joie. Abraham a donné avec joie. Jacob a donné avec joie. Sans contrainte. Avec leur cœur. Le peuple qui voulait, qui apportait ses offrandes à David le faisait avec joie. Vous savez, quand vient le temps de l'offrande dans la majorité des églises évangéliques et même plus larges, ce qui est intéressant, c'est que c'est un temps où tout le monde tremble. Un temps triste. Et moi, j'imagine la collecte comme un temps de joie. Une fête. Seigneur, je te donne. Sauf qu'il y a un critère, on ne se fait pas voir. Eh, Seigneur, t'as vu, je te mets 50 aujourd'hui. Ça, c'est pas l'attitude. Hein. Mais un temps de joie, parce que on peut enfin donner quelque chose à Dieu. Quelque chose qui montre combien mon cœur a été touché. Combien je suis heureux de pouvoir lui donner ces choses-là. 2 Corinthiens chapitre 9, toujours verset 11. Vous serez ainsi riches de tout, pour toute la générosité que produira par notre entremise des actions de grâce envers Dieu. Car le ministère de cette offrande, de ces collectes, non seulement supplée à ce qui manque aux saints, mais encore fait abonder en actions de grâce envers Dieu. Non seulement pourvoit aux besoins, mais en plus fait abonder en actions de grâce, parce que quelque chose de bien provoque quelque chose de bien et provoque quelque chose de bien. Vous avez vu? On n'a pas un Dieu tellement terrible. Mais ah, la loi, je veux en être dégagé. Nous connaissons tous ce texte. Jésus s'étant mis vis-à-vis du tronc. Regardez comment la foule, c'est Marc 12, hein. La foule y mettait de l'argent, plusieurs riches y mettaient beaucoup et se faisaient voir. Il vint aussi une pauvre veuve qui elle mit 2 petites pièces, ce qui faisait un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ceux qui ont mis de leur superflu, de ce qui ne touchait pas, la pièce jaune réservée à Madame. Mais elle a mis son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour lui. Elle s'est confiée en lui. C'est l'extrême. Mais vous voyez que quand on parle d'offrande, quand on parle de donner, il y a des règles. Et quelle que soit la règle sous laquelle on se met, c'est pour Dieu qu'on donne. C'est parce que Dieu a changé mon cœur, ma vie, qu'il m'a donné une vie bien meilleure que celle que j'avais. Une espérance que je n'avais pas. Un avenir qui était derrière moi. Il a fallu d'ailleurs, pour que je le prenne, cet avenir, que je me tourne. Ah, on fait des calculs au moment de donner, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un a écrit ceci. Il a dit, il ne s'agit pas de calculer quelle proportion de mon argent je donne à Dieu. Mais combien de l'argent de Dieu je garde pour moi? Non pas de calculer le pourcentage que je lui donne, mais combien je garde. Alors, conclusion, parce qu'il faut conclure pour ce matin, je reviendrai dans 15 jours, continuer un petit peu. Notre offrande, elle peut être à l'image de celle de Caïn, à celle d'Abraham, de Jacob, du peuple d'Israël, des Lévites, d'Aaron, ou alors de la pauvre veuve, ou alors des chrétiens de Macédoine, les pauvres, ceux qui avaient une extrême pauvreté. Mais la question qui était celle de départ, est-ce que Dieu y jette un regard favorable? Est-ce que Dieu jette un regard favorable? Et après, le tout, c'est pas de sortir et de dire « Toi, Dieu t'inquiète, toi, Dieu t'inquiète pas. » Parce que ça, c'est dans le secret du cœur. Hein. C'est nous et Dieu. Cette réflexion, je l'amène parce que c'est important pour chacun d'entre nous. Pas pour vous, pour moi aussi. Parce que devant Dieu, Dieu nous rend dépositaires de biens. Et nous sommes les gérants de ces biens. Et Dieu un jour va nous demander des comptes sur la gestion de ce qu'il nous a donné. Et cette question, il faut la mener en église. Je profite que nous soyons tous ensemble pour lui. En étude biblique où un pourcentage est là. Je préférais qu'on en parle ouvertement. Et que chacun de nous, on se mette devant Dieu en disant, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Quelque chose où je peux mieux te servir, mieux te donner, peut-être même mieux organiser mes comptes, peut-être mieux organiser l'argent que je mets de côté pour faire ceci ou cela. Et parce qu'on a vu, vous avez vu que Dieu pourvoyait pour tout le monde. Jusqu'aux pauvres, aux veuves, à celles qui se sentent négligées même dans le livre des Actes. Que Dieu nous aide. On va prendre l'offrande après, hein, je laisserai ça à Pierre. Mais que Dieu touche nos cœurs. Considérons ce que Dieu nous donne. Vous savez, une des choses qu'on considère très très vite, c'est des choses que nous n'avons pas. Des choses qu'on voudrait. Des choses qui amélioreraient notre vie. Mais on prend pas beaucoup de temps à regarder les choses qu'on a. Et à dire merci Seigneur. Alors, je vous invite juste à courber vos têtes quelques instants. Juste nous mettre devant Dieu. Dieu nous connaît. Peut-être nous sommes dans un état pour certains d'extrême pauvreté. Des gens qui ont peut-être plus cette situation où ils sont en situation de demander. Et peut-être d'autres sont plutôt en situation de donner. Mais donner quoi? Donner combien? Donner quand? Je veux juste que nous nous placions devant Dieu. Et que Dieu fasse de nous ses enfants généreux. Ces enfants qui donnent sans contrainte, avec joie, mais en honorant notre Père céleste, à qui appartient tous les trésors. Tout ce que nous avons, c'est lui qui nous donne. Père céleste, quel honneur tu nous fais de participer à l'offrande, de te rendre ce que toi tu nous donnes. Seigneur, merci pour ces rappels ce matin. Ils ont été rapides. Ils ont juste voulu couvrir une partie des textes qui touchent à ce sujet brûlant. Mais Seigneur, je veux te remettre chacun d'entre nous. Oh Seigneur, tu ne nous demandes pas de considérer la droite, la gauche, celui qui est devant nous, derrière nous, ceux qui pourraient donner, qui ne donnent pas, ceux qui ne peuvent pas donner et qui donnent. Mais ce matin, tu parles à chacun d'entre nous. Et tu nous poses cette question à savoir comment nous organisons nos vies et comment nous gérons ces biens que toi tu nous donnes, notre amant, notre argent. Je demande juste de visiter nos cœurs. Que si quelques-uns pensent qu'ils ont des choses à changer, bien Seigneur, que ça soit entre toi et eux. Que si quelques-uns ont besoin d'aide, alors qu'ils osent demander dans la discrétion, afin qu'on puisse les aider aussi. Afin que ceux qui ont des compétences puissent aussi les conseiller. Et Seigneur, enfin, je le mets en dernier, Seigneur, que nos offrandes soient à la hauteur de ce que toi tu nous donnes. De ce que toi tu attends. Tu nous connais bien mieux que nous-mêmes. Tu sais exactement même les mots que nous prononçons, les cheveux de notre tête. Mais tu sais aussi chaque pièce d'argent que nous avons. Alors Seigneur, nous nous remettons devant toi afin que tu guides nos cœurs. Dans la joie, sans contrainte, sans obligation, sans loi. L'unique loi, c'est celle de t'aimer, toi. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Thank you.